Code économie.
Les recettes douanières captées au poste frontalier de Bounagana en baisse, conséquence du contrôle de ce poste par la milice M23. Bounagana est le troisième poste frontalier du Nord Kivu après celui de la Grande Barrière à Goma et celui de Kassindi. Fanny Ouketti, coordonnatrice du Centre multidisciplinaire d'appui et de développement des femmes, est notre invitée. Le CMADEF a lancé lundi à Bounia un projet de renforcement des capacités de jeunes entrepreneurs. Bienvenue à tous. Le commandement de la force régionale de l'EAC a organisé cette semaine un voyage de presse dans les zones où elle est déployée au Nord Kivu. Des journalistes congolais et étrangers ont ainsi visité la cité de Bounagana. Selon quelques témoignages, des journalistes qui ont fait le déplacement, les échanges commerciaux ont repris entre la RDC et l'Ouganda, mais sous la supervision des agents de service nommés par le M23 qui a installé une administration parallèle. Plus de détails avec vous, Cynthia Bachizi, Nabizana.
Cette situation crée un grand manque à gagner pour le trésor public. Il faut savoir que, selon une source au sein de la DGDA, le Nord Kivu est la quatrième province qui mobilise le plus de recettes douanières en RDC. Le poste frontalier de Bounagana vient après ceux de la Grande Barrière à Gomaville et ensuite Kassindi. Au niveau national, ce sont les provinces de Kinshasa, du Katanga et du Congo central qui figurent dans le top 3 des provinces qui génèrent le plus de recettes douanières. Avec la situation qui prévaut actuellement dans le Nord Kivu, la capacité contributive de cette province au profit du trésor public a sensiblement baissé, précisément. Un expert. Toutes les recettes douanières captées à ce poste frontalier sont en baisse tant au niveau provincial que national. En outre, un poste frontalier draine plusieurs autres activités économiques en parallèle qui sont aussi en berne en ce moment ou soit contrôlées par le M23. Depuis la chute de Bounagana, des opérateurs économiques ont trouvé une alternative pour contourner cette occupation par le M23. C'est ainsi que beaucoup de marchandises passent maintenant par la frontière rwandaise et arrivent à la Grande Barrière à Goma via la ville rwandaise de Gisenyi.
Appel d'offres sur les blocs pétroliers et gaziers. Les dates limites pour le dépôt des candidatures ainsi que les ouvertures des plis ont été dévoilées par le ministère des Hydrocarbures. Il s'agit de l'appel d'offres lancé par le gouvernement sur les 3 blocs pétroliers du bassin côtier en RDC en juillet 2022. Cette information a été rendue publique mercredi à travers un communiqué officiel. Ainsi, pour le bloc Ngazi, la date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 21 avril et l'ouverture des plis est prévue pour le lundi 24 avril. Pour ce qui est du bloc Yema 2, le vendredi 28 avril est retenu comme date limite alors que l'ouverture des plis est fixée au mardi 2 mai. Enfin, le bloc Matamba, dont le vendredi 5 mai marque la date butoir pour soumettre sa candidature, et le lundi 8 mai retenu pour l'ouverture des plis. Le communiqué du ministère des Hydrocarbures précise que les dossiers sont à déposer au siège de la Société nationale des hydrocarbures, Sonahydrock, qui se trouve dans la commune de Lagombe à Kinshasa. En Ituri, plus de 100 véhicules transportant des marchandises et des produits pétroliers bloqués pendant une semaine sur le tronçon Nizi-Guina-Iga-Barrière sur la route nationale numéro 27 sont arrivés mercredi à Bounia. C'est la grâce aux travaux de réhabilitation de ce tronçon lancé la semaine dernière. Selon la société civile locale, cela va permettre de réduire le prix des produits de première nécessité et de vivre sur le marché. Elle plaide pour la poursuite des travaux sur toute la partie qui s'est dégradée, ainsi que la sécurisation des personnes et de leurs biens contre les menaces d'attaque des groupes armés. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Le trafic sur le tronçon routier Nizi-Iga-Barrière jusqu'à Jina sur la route nationale numéro 27 est à nouveau fluide depuis quelques jours, constate la société civile locale. 100 véhicules des marchandises bloquées pendant plus d'une semaine sur cette route ont repris le chemin après la fermeture des nids des poules qui rendaient les tronçons impraticables. Une dizaine des trous qui étaient visibles sur la chaussée ont disparu. Cependant, les tronçons Matete, Aché jusqu'à Pimbo ne sont pas encore réhabilités, ce qui constitue un calvaire pour les usagers de cette route, déclare la société civile locale. Son président Dino Gédéon plaide pour la poursuite des travaux le long de cette route.
Il y avait deux grands trous d'arrivée qui sont tous embrayés. Il y avait un trou à Fayon qui est aussi embrayé. Ils ont déjà fait des gabarits jusqu'à Gina, ce qui nous arrive jusqu'à Pimbo parce qu'à Matete aussi ça n'en va pas. même si le grave courbe de H vers Pizzola aussi, ça n'en va pas.
La société civile lance également un appel au gouvernement pour la sécurisation des agents de l'entreprise en charge de la réfection du tronçon Nizi-Iga Barrière et de celle des usagers qui sont sous la menace permanente des attaques des groupes armés sur cette route. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Les enjeux autour du processus de mise en place de la chaîne de valeur des batteries et voitures électriques en RDC et les perspectives ont fait l'objet de l'échange mercredi entre le ministre de l'Industrie et le Conseil économique et social. Cette séance académique a été dirigée par Jean-Pierre Kiwakana, président de cette structure consultative. Dans son intervention, Julien Paluku Kaungia a expliqué le souci du chef de l'État de changer le paradigme de gestion des ressources minières, non seulement en RDC, mais aussi sur le continent africain. On écoute Julien Paluku dans cet extrait proposé par Alain Hurong.
Cette invitation nous a permis de partager avec les conseillers économiques et sociaux et tous les conseillers le projet qui est cher au président de la République, celui du développement de la chaîne de valeur autour de l'industrie des batteries. Parce que pour le président, il a constaté qu'effectivement, depuis 1960, nous ne captons rien que 3% de la valeur marchande de nos ressources naturelles. Et que pour élever le taux de ce que nous devrions capter, il faut transformer localement nos ressources. Et cela passe par la dynamique mondiale autour de la transition énergétique et écologique qui fait encore une fois de la RDC les champions de la lutte contre le réchauffement climatique à travers ces minerais stratégiques qui sont les cobalt, les manganèse, les nickel, les lithium, etc. Et donc pour le président, il faut construire ici en RDC avec d'autres pays africains, notamment la Zambie, une chaîne de valeur qui part de l'extraction des minéraux jusqu'à leur transformation. Ainsi nous aider à capter le marché mondial qui se chiffre d'ici 5-10 ans à près de 7 000 milliards de dollars américains. Ce qui permettrait, avec ces ressources, si on capte seulement un pourcentage évalué autour de 5 à 10%, de changer la structure économique de notre pays, de changer même notre budget.
Écho d'économie.
Le Centre multidisciplinaire d'appui et de développement des femmes, CEMADEF, a lancé lundi à Bounia un projet de renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs dans la ville. Plus de 250 jeunes, dont des femmes, qui exercent le petit commerce, sont ciblés par ce projet qui vise leur autonomisation et la réduction du chômage en Ituri. Fanny Ouketti, coordonnatrice de cette organisation, explique l'importance de ce projet dans cet entretien avec Ezekiel Mouzalia.
Madame Fanny Ouketti, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous aviez lancé ici récemment un projet comment renforcer la capacité des jeunes entrepreneurs ici dans la ville de Bounia. Quel est l'impact de ce projet dans une ville comme Bounia?
Ce projet, nous l'avons conçu à base des besoins que nous sommes en train de voir ici. Parce qu'il y a vraiment le chômage de la jeunesse a un problème très sérieux. Et il n'y a pas suffisamment d'appui au projet de jeunes, mais aussi à la jeunesse en général. Alors nous avons pensé à ce projet. C'est juste pour essayer un peu de leur donner des compétences. Ça concerne les jeunes de 15 à 35 ans. Et parmi ces jeunes, il y a ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'étudier et qui peuvent apprendre des métiers. Et avec ces métiers, ils peuvent soit aller chercher de l'emploi quelque part.
Est-ce que vous misez aussi sur les catégories? Parce que ici, dans la ville de Bounia, il y a pas mal de jeunes qui se débrouillent en tout cas. Certains font des grillades un peu sur la route. D'autres sont des artistes, des peintres, ainsi de suite. Est-ce que vous misez sur différentes catégories des jeunes entrepreneurs ici, dans la ville?
Nous sommes un peu contrés par le budget. C'est pourquoi nous avons une catégorie que nous appelons les vulnérables. Bien sûr que tout le monde est vulnérable,
oui.
Mais il y a quand même un degré de vulnérabilité qui va nous guider dans la sélection. Et nous voulons vraiment les plus vulnérables, ceux-là vraiment qui n'ont pas vraiment de moyens comme tel. C'est un projet qui couvre quand même 3 ans, 39 mois. Le budget alloué au projet, c'est pas grande chose. Ça va toucher 250 jeunes.
Quel est l'intérêt que vous accordez à la participation féminine? Il y a des jeunes filles qui œuvrent justement dans les secteurs de l'entrepreneuriat et même des femmes qui se débrouillent tant soit peu, vu leur maigre revenu ici dans la ville.
Et ça, c'est un programme que nous avons depuis 15 ans. Nous sommes en train d'appuyer les femmes entrepreneurs et les jeunes filles dans la ville de Bounia, pas seulement dans la ville de Bounia, mais dans toute la province. Dans ces programmes d'espoir, nous avons trois catégories de femmes. Nous voulons vraiment appuyer à partir de la base. C'est-à-dire même cette femme-là qui se promène avec les beignets, l'avocat, banane sur la route, doit avoir accès au financement et doit être appuyée. Deuxième catégorie, c'est la classe moyenne. Ce sont les femmes qui ont des activités qui marchent. Ce ne sont pas des débutantes. La dernière catégorie, ce sont les femmes que nous appelons les ambassadeurs. Ça, ce sont les femmes entrepreneurs, des entreprises réellement.
Est-ce qu'il y a des exigences pour être éligible dans ce projet-là?
Les critères que nous utilisons le plus, c'est que la femme ou la jeune fille qui vient chez nous, ou même le jeune, qu'ils aient quand même une petite activité. Parce que je dis bien ici, nous appuyons les activités existantes de ces bénéficiaires. Nous ne créons pas d'activité. Il ne faut pas dire, OK, viens faire la couture, ou bien viens faire ceci. Non. Vous venez avec l'activité que vous faites, même si c'est une petite activité, notre objectif, c'est de vous prendre de là où vous êtes et de vous accompagner jusqu'à la réussite, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous puissiez devenir autonome.
Vous avez l'appui des partenaires qui vous appuient dans ces projets-là. Quelle est la chance que vous accordez pour l'effectivité de ce programme? De manière qu'il puisse vraiment contribuer à réduire les taux de chômage qui est en Ituri et qui pousse certains jeunes à emboîter même des forces négatives, des groupes armés.
Ce programme des jeunes a l'impact vraiment grand parce que la délinquance est due à des causes différentes. Quelquefois, il y a les conflits armés, mais il y a aussi manque de responsabilité, manque d'encadrement par les parents. Quand les jeunes sont occupés, moi je pense que les degrés de manipulation sont minimes. Parce que les jeunes occupés peuvent gagner la vie comme telle. Au Congo, nous sommes en train de nous battre.
Madame Fanny Ouketi, merci.
Merci aussi.
Ainsi s'achève ce magazine. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur la fréquence. We'll be right back.